Juan Garraf. Vous êtes magistrat honoraire, président de la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des crimes sexuels dans les congrégations catholiques françaises, producteur de l'émission Esprit de justice sur France Culture. La justice internationale repose avant tout sur un pacte de justice et de coopération entre États. Le droit international est pour ainsi dire jurisprudentiel, c'est un ouvrage collectif que nous élaborons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'avais à cœur de citer Louis Joinet, magistrat et expert indépendant auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU pendant plus de 30 ans, qui dit dans ses mémoires que les Nations Unies sont l'utopie de ce temps, au meilleur sens du terme, son utopie la plus nécessaire, celle qu'il faut fomenter contre les pierres réelles politiques et tisser patiemment, sans paniquer chaque matin, lorsque d'aucuns durant la nuit en ont un peu défait la tapisserie. Lutter pour les droits de l'homme, dit-il, demande beaucoup d'obstination. Les Russes ne sont pas les seuls à défaire la tapisserie, mais ils portent depuis plusieurs années un coup à l'ouvrage collectif. La violation de l'Ukraine par la Russie est une violation caractérisée du droit international. Des crimes de guerre tels que décrits à l'article 8 du statut de Rome, qui date de 1998 et qui inaugurait la Cour pénale internationale, sont actuellement rapportés en Ukraine. La lutte indispensable contre l'impunité, le jugement, les sanctions sont a priori des perspectives de long terme. Pourtant, la justice est au travail aujourd'hui et nous allons évoquer avec vous les violations du droit international, la qualification et les perspectives de condamnation des crimes de guerre perpétrés par la Russie en Ukraine.
Oui, merci beaucoup. Merci de cette invitation. Je dois dire que quand Galia m'a invité à participer à cette réunion ce soir, j'ai bien sûr dit oui. J'ai dit oui, mais en même temps, j'étais un peu confus pour me dire, mais qu'est-ce que je vais dire de bonnes nouvelles sur la justice? Il se passe des choses, mais pas tellement au plus haut niveau. Et puis, heureusement, le 5 mars, donc il y a très peu de temps, il y a 10 jours, il y a eu le mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. C'est la deuxième salve après celle du 15 avril qui mettait en cause le président Poutine et Maria Lvova-Belova pour un crime très précis, j'en dirai un mot. Il s'était rien passé. Et là, il y a eu cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, donc deux généraux, pas du plus haut rang, mais quand même Sergueï Kobylash, qui était un aviateur, né à Odessa, et qui est poursuivi, ainsi que l'amiral Viktor Sokolov, dont on ne sait pas encore vraiment s'il est vivant et s'il n'est pas en disgrâce, et qui était le commandant de la flotte de la mer Noire. Alors, deux généraux qui sont poursuivis pour trois types de crimes, deux crimes de guerre, un crime contre l'humanité. Alors vous savez, dans la Cour pénale internationale, on n'a pas le détail, on ne peut pas l'avoir, parce qu'en fait, c'est des enquêtes qui sont très longues, très délicates, s'agissant d'une puissance comme la Russie, et donc on a des idées. Il y a deux crimes de guerre. Alors le premier crime, la particularité de cette inculpation, c'est qu'elle a quelque chose à voir avec la destruction des équipements énergétiques ukrainiens. Ce qui est un peu surprenant, on aurait pu s'attendre à autre chose. Alors, crime contre le civil, eh bien, c'est ce qui a déjà été abordé par Florence Benaz sur les écoles détruites. L'école détruite, c'est un crime de guerre. Et dans la mesure où il y a une multiplication en Ukraine de ces destructions, la maternité de Mariupol, ce sont des crimes de guerre. Et donc, comme le sont... Alors c'est relativement facile à prouver, je dis bien relativement parce que, surtout quand c'est répété et étendu, j'en dirai un mot tout à l'heure. Autre crime de guerre plus difficile, c'est l'usage excessif de la force qui cause des pertes civiles inutiles. Alors c'est un crime de guerre qui est caractérisé, à qui on reproche ces deux généraux, qui est reproché à ces deux généraux, qui est difficile à qualifier parce que il faut prouver la réalité du crime, éprouver la connaissance par ceux qui l'ont commis qu'ils commettaient des dégâts excessifs, et de l'intention quand même de commettre ça. Et alors, il se passe quelque chose dans cette guerre, on en a déjà parlé un petit peu avant d'ailleurs, qui est tout à fait nouveau, c'est que les moyens numériques permettent fournissent à la justice des formes de preuves tout à fait nouvelles, et notamment des communications interceptées entre le cockpit et l'état-major. Et donc, on a une offre de preuves tout à fait nouvelle, tout à fait intéressante. Et d'ailleurs, comme Poutine lui-même s'est piégé, mais on le voit de manière très, très régulière dans la guerre d'Ukraine. C'est-à-dire qu'il a voulu faire une interview avec Maria Belova pour lui dire et mettant en scène en quelque sorte le crime qu'il est en train de commettre. Et à partir du moment où on a cette vidéo que tout le monde a, que vous pouvez avoir sur Internet, on a la preuve qu'il y avait une intention, que c'était programmé, surtout après les embrassades qui suivent. Bref, c'est un coup monté contre des enfants. Et ça, c'est une des nouveautés. Alors, je disais, c'est un peu décevant les rangs de ces militaires importants, mais c'est pas le top du commandement. En fait, ça correspond à une stratégie du bureau du procureur à La Haye. Sa stratégie qui est très classique et que je trouve bonne, c'est de commencer par le bas pour monter vers le haut. Et donc, ils commencent par des militaires pas périphériques, mais qui ne sont pas à la tête, pour accumuler des preuves, et accumuler des preuves qui enserrent en quelque sorte l'inculpation de la prochaine vague, ce qu'on attend, c'est-à-dire le général Sourovikine, vous parliez, le général Trinquant, Sergueï Choïgou et Valéry Gerasimov, qui sont des têtes, et bien sûr Poutine lui-même. Mais ça, je pense que c'est la prochaine vague qui est en train de se préparer, étant entendu que malheureusement, on ne pourra, à mon avis, de juriste, hein, on ne peut pas penser à une instance qui pourra régler juger le crime d'agression, qui est le crime majeur, qui est le crime matriciel de cette guerre. Alors donc, du travail qui se fait, une stratégie d'accusation qui continue et qui s'enrichit. Et ça, c'est important aussi, la preuve de la part de la CPI, que notamment le procureur adjoint Brenda Hollis, femme extrêmement expérimentée, extrêmement déterminée, elle continue de travailler, d'accumuler des preuves, et elle a fait une récente visite en Ukraine, et on commence à comprendre quelque chose vu de l'extérieur, hein. C'est qu'à chaque fois qu'elle fait une visite en Ukraine, à chaque fois s'ensuit une vague de demandes d'arrêt. Et donc, on attend qu'une prochaine affaires soient des inculpations pour un crime contre l'humanité. Donc, un crime contre l'humanité, pour les juristes, ça veut dire qu'il y a une entreprise de crime qui est généralisée et systématique. Widespread and systematic, c'est les deux critères, deux mots-clés du crime contre l'humanité. Et finalement, nos deux généraux sont inculpés de crime contre l'humanité, mais c'est beaucoup plus long à prouver. Et je pense qu'on estime que la prochaine vague d'inculpation, elle sera peut-être, espérons-le, pour des généraux de première importance, encore que Shoigu n'est pas général, je crois, c'est pas un militaire, hein. Donc il prend à l'évidence des décisions importantes, il parle parfois beaucoup, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais il y a d'autres affaires. Et là, vous parliez de tapisserie, la tapisserie que les Russes détricotent. C'est vrai, mais il se passe des choses dans ce conflit ukrainien. La première chose, j'en ai parlé, c'est qu'il y a une offre de preuves très, très grande. Il y a aussi, on voit apparaître des crimes d'une nature nouvelle. Crimes contre l'environnement. Le barrage de Karovska. C'est très intéressant parce que c'est la destruction d'un équipement, mais qui entraîne des dégâts environnementaux massifs. On peut se poser la question de Zaporijja, où il pourrait y avoir aussi une inculpation, parce qu'on flirte, on joue avec le feu, en l'occurrence avec le nucléaire. Il y a une dimension cyber très importante aussi dans ce conflit, qui est tout à fait nouvelle à ce niveau d'intensité, en raison du taux d'équipement informatique, aussi bien de la population que des Russes et des Ukrainiens d'ailleurs, qui n'y avaient pas en Syrie. Et donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient se passer. Et pour conclure, je dirais, c'est la force de la justice. Elle a pas, on n'est pas dans le temps de l'action comme celui que nous a décrit le général Trinquant, angoissant, terrible. Mais la justice a toujours un coup de retard, un temps de retard. C'est normal et c'est plutôt bon signe qu'il n'y ait pas eu d'annonces qui sont toujours des surannonces et qui en fait ensuite se terminent par des flops. Là, on a, c'est pas le cas. On a un travail très très sérieux. Veritas filia temporis, hein, on a appris dans les facs de droit, la vérité est l'affaire du temps. Mais le temps, il faut qu'on le conserve. Et je crois qu'il y a une nécessité aujourd'hui pour l'Ukraine, c'est de créer un organisme international de conservation qui en fait pose des tas de problèmes, hein, de conservation de toutes les preuves numériques et les preuves OSINT, les preuves qui sont diffuses en open source, ce qu'on a fait pour la Syrie, et ce qu'il faut faire, ce qui commence à être fait pour l'Ukraine, mais ce qui devrait être, à mon avis, plus structuré, de façon à garder la mémoire et que les généraux et les Russes sachent que ils auront des comptes à rendre un jour, parce que les preuves, eh bien, ces nouvelles preuves, nous les donnons. Merci.